Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Cette semaine, et comme tous les mois, je suis avec Viviane Lipskier, qui est une habituée des News and Analysis. Salut Viviane.
Salut Adrien.
Pour rappel, Viviane, elle est la fondatrice de Brand Alchemy, elle est l'experte DNVB en France et elle accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie direct to consumer. Et elle est l'auteur du fameux livre « Les DNVB, les surdoués du commerce digital ». Donc cette semaine, Viviane, tu nous parles d'un sujet un petit peu différent que d'habitude, c'est que tu reviens du forum direct au consumer de Londres qui avait lieu le 18 juillet dernier, donc il y a 10 jours en arrière.
Une petite semaine,
ouais. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en as retenu de ce forum ?
Écoute, oui, Adrien, je reviens donc de ce premier forum qui s'est tenu à Londres, qui s'appelle DTC, Direct to Consumer, et qui réunissait, qui avait pour particularité de réunir uniquement des fondateurs de Direct to Consumer, de marques Direct to Consumer, et de Digitally Native Vertical Brand. Alors, c'est vrai que donc il n'y avait pas de public externe, ce qui était très agréable, puisque du coup, les échanges étaient vraiment une espèce d'entre-soi, entre confiance, ce qui m'a permis effectivement de vous ramener, de comprendre le mindset de ces marques direct to consumer anglaises, qui est un tout petit peu différent de celui des marques dont on parle tout le temps, les américaines, et puis de celles que nous, on connaît bien en France, même s'il y a énormément de points communs. Et la première chose dont je voulais parler, donc, c'est bien qu'il y avait effectivement des digitally native vertical brands, dont on parle souvent avec toi, Adrien, et des marques direct to consumer. Depuis un certain temps, on utilise direct to consumer, qu'on voit souvent abrégé en D2C, et c'est devenu presque interchangeable les deux mots, mais quand même, moi, je voudrais rappeler ce que sont les deux termes. Digitally native vertical brand, ce sont donc des startups qui sont intégrées verticalement en amont, conception, fabrication, chaîne d'approvisionnement, et en aval, distribution, canaux de vente, service aux clients, et qui ne vendent que les produits physiques qu'elles produisent. Okay, elles ne vendent pas autre chose que ce qu'elles font fabriquer pour elles-mêmes. Alors que les marques direct to consumer, en général, effectivement, elles ont la même intégration verticale, mais elles distribuent les produits des autres. Si tu prends Birchbox qui était présente, par exemple, on en a déjà parlé, Birchbox commercialise sous forme de box des échantillons de produits de beauté qui lui sont donnés par des marques de beauté et fournis par des marques de beauté extérieures. Mais là-dedans, dans les marques direct to consumer, tu peux aussi avoir des services, pas des produits. Tu peux avoir des banques en ligne, des assurances, ou tu peux avoir un mix comme Peloton, dont on a déjà parlé aussi. Donc Peloton, c'est un vélo à la maison, et puis des cours en ligne, des coachs en ligne. Mais toutes les marques direct to consumer et DNVB, en général, elles se définissent de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, elles maîtrisent toute la chaîne de valeur. Elles investissent de la même manière dans la R&D, dans la conception jusqu'au produit fini. Et elles prennent toute la responsabilité de l'exécution du marketing. Et donc, ça leur permet d'être transparentes de bout en bout.
Très bien.
Ça a bien été souligné dans ce forum.
Et pourquoi alors cette journée avait été organisée ? Et pour qui en fait ? Tu me disais que ce n'était pas ouvert au public, mais c'était uniquement pour les direct to consumer.
Ouais.
D'accord.
Exactement. Et puis, c'est ce qui était assez amusant, c'est que je pense il y a quand même un gros appétit aujourd'hui, comprendre ce business model, etc. Mais du coup, quand il y a des services extérieurs, de la presse, etc., la parole vraie ressort moins. Tu vois, il y a moins de confiance parce qu'elles se sentent quand même épiées. Et bizarrement, à côté de moi, il y avait des gens de la télé japonaise qui avaient réussi à se glisser, je ne sais pas comment. Ouais, ouais. Et en fait, ils sont vite sortis parce que je crois qu'ils se sont sentis vraiment mal à l'aise en fait d'être là, alors que tu vois un peu par en loose day quoi.
Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Je vois très bien le sentiment.
Tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment on sent qu'il y a une grosse pression comprendre ce modèle, et puis il y a beaucoup d'opérateurs de services qui veulent absolument intégrer la chaîne de valeur et proposer leurs services, alors qu'en fait. Oui, c'est vrai que les marques direct to consumer ont besoin, sont consommatrices de services, mais elles essaient quand même d'intégrer au maximum l'ensemble de la chaîne de valeur en interne. Donc il y a quelques contresens parfois. Donc on était très bien, sur cette journée entière entre D2C et DNVB. L'introduction, alors il faut que tu saches que c'était quand même ce forum DTC était supporté par un groupe qui WirePress qui a débuté dans le gaming. Donc voilà, le gaming une autre verticale, un autre monde, mais qui aussi est très très intéressant à analyser. Et qui voilà, sur lequel effectivement tout le monde veut savoir aussi aujourd'hui comment ça se passe et comment on pourra en tirer profit. Donc en fait, l'introduction était très claire, a très bien posé le sujet de manière assez magistrale. Pourquoi les marques direct to consumer et les business direct to consumer vont dominer les prochaines décennies. Tu vois, déjà on était sur du lourd. Alors ouais, qu'est-ce que le constat? C'est que en fait, elle perturbe aujourd'hui toutes les industries traditionnelles. On a parlé dans la mode, on en parle souvent, dans les accessoires, mais c'est aussi donc les matelas, le grooming pour hommes, tout ce qui est beauté, les lunettes, baby care, la food, la banque, l'assurance et la mobilité. Comme exemple, bien sûr, le bed in box. En France, on connaît Teddy Bear. Le modèle vient des États-Unis. Il y a eu Casper. Aux États-Unis seulement, il y a plus de 100 marques à Bed in Box. Donc, ce sont ces startups qui livrent, qui ont révolutionné l'achat du matelas en livrant dans une boîte qu'on peut envoyer par UPS. Et puis, on n'a plus besoin de mettre le toit sur le. Donc, soit de se faire d'attendre le livreur, soit le matelas sur le toit. Et puis, surtout, bah, c'est frugal en stock. Il n'y a pas de stock, tu vois. Il n'y a pas d'endroit de magasin où on va essayer des matelas. Là, si tu l'essayes chez toi, si ça ne te va pas, tu le remets dans la boîte et tu le renvoies. Et donc, il y en a plus de 100 aujourd'hui aux États-Unis. Il y en a énormément. Il y a une grosse pression aussi en Angleterre. Et le marché, on voit le déclin des marques traditionnelles. Le marché traditionnel a décliné de environ 5%. Et on voit certains grands acteurs comme Mattress Firm, par exemple, qui a déclaré sa faillite cette année. Pareil pour les produits pour animaux, etc. Donc c'est pas, j'ai l'habitude de dire, c'est pas une seule start-up toute seule qui va faire s'effondrer le marché ou qui va le faire changer, mais c'est l'ensemble des NVB ou des direct to consumer dans leur secteur qui tout ensemble, partout dans le monde en même temps, vont bousculer le paysage très fortement. Et du coup, elles vont obliger, ça c'était le deuxième constat, elles vont obliger les marques traditionnelles à se développer, à développer des stratégies direct to consumer. Bah ça, tu vois, c'est quelque chose dont on parle souvent, Adrien, puisque c'est mon métier au quotidien d'accompagner les marques traditionnelles dans le développement de leurs stratégies. Donc ça, c'est vraiment une réalité que moi je constate aussi tous les jours.
D'accord. Et donc, de quelle manière, est-ce que tu peux nous expliquer comment on transforme une marque traditionnelle en D2C, quoi?
Oui, bah, tu vois, Nike a pris un très très fort tournant direct to consumer en 2017. C'était vraiment une volonté stratégique du groupe, mais c'est aussi une volonté stratégique de Chanel, par exemple. Donc tout simplement, on a parlé beaucoup des pop-up de Glossier, la marque de référence, de la DNVB de référence dans la cosmétique américaine. Tous ces pop-up, Chanel a commencé une politique de pop-up. Alors que tu vois, c'est une marque de luxe très, c'est presque la marque de luxe, j'ai envie de dire, Chanel, dans sa distanciation par rapport aux clients, en couture, tu sais, la désirabilité, la distance par rapport à la désirabilité pour maintenir le prix, etc. Donc faire des pop-up, c'est vraiment la rencontre du public. Et eux, ils ont justement créé des hashtags dédiés, des comptes Instagram dédiés, toute une série de pop-up autour de la marque, non pas Coco Chanel, mais Chanel, mais de la marque Coco. Donc, ils ont pris, tu vois, un petit tournant différent, un axe différent pour aller autour de Coco, créer de nouvelles expériences. Donc, on a vu, par exemple, à Los Angeles, il y avait la We Love Coco Beauty House, qui était un espace tout rose dédié au maquillage et qui célébrait le lancement du compte Insta We Love Coco. Donc, ouais, très, très Instagrammable.
J'en avais parlé avec Delphine, ouais.
Ouais, très Glossier. Ils ont lancé le Coco Game Club, qui est passé de Tokyo à Paris, Hong Kong, etc. Des jeux d'arcade. Ça, c'était pour le lancement des rouges Coco. Et puis, je sais pas si tu te souviens, au bon marché, il y avait l'espace Coco Lab, C'était dédié aux bijoux. Donc, c'était un lab avec des faux médecins qui faisaient des fausses ordonnances pour des bijoux. Donc, en fait, c'est comme ça. En fait, en ayant une stratégie non pas sur l'ensemble de leur offre, mais sur une proposition un peu différenciante, qui vont gagner, en fait, qui vont aller faire du direct to consumer. Tu peux pas le faire sur l'ensemble de ta marque, tu es obligé de faire une proposition différente. Et évidemment, c'est vraiment l'occasion d'établir une nouvelle relation avec les clients et puis surtout d'aller chercher de la donnée et de la business intelligence. Alors, l'autre constat, ben, effectivement, les direct to consumer, donc je vais dire direct to consumer, mais j'entends bien qu'il y a dedans, il y a les native vertical brand. Elle représente aussi une forte croissance pour les plateformes tech, Google, Facebook et Amazon, puisque, ben, quand même, elles investissent énormément dans ces plateformes. Des nouvelles opportunités de services et de nouveaux outils. C'est bien pour ça que toutes les entreprises tournent autour. On voit pas mal de startups qui tournent autour des direct-to-consumer pour leur proposer. Et puis, elles transforment les canaux, évidemment, et en particulier les médias. C'est pour ça qu'il y avait la télé japonaise. Ça, on en avait déjà parlé des médias, puis je vais y revenir. Dans l'introduction aussi, les constats aussi, c'est assez surprenant. En fait, les verticales dans lesquelles les fonds les plus investis cette année, figure-toi que c'est les nouveaux moyens de transport, en fait. Donc, dans les direct-to-consumer, t'as tout ce qui est les trottinettes, tous les nouveaux moyens de transport urbain, en fait. D'accord. Hein, voilà, donc là, l'industrie a investi plus de 6 billions de dollars.
Ça, c'est worldwide. C'est des chiffres...
Ouais, worldwide, exactement. Exactement. Et puis ensuite, tu as le voyage et le tourisme, la santé et le bien-être, la nourriture, tout ce qui est food et drink, tout ça autour de 4 billions de dollars. Derrière, la mode, 3 billions. Et la beauté. Alors moi, tu vois, j'aurais imaginé instinctivement que la beauté était au-dessus. 2 billions. Et baby and child care, 1 billion. Très loin derrière, les accessoires, le gaming, l'éducation, le jardinage et les fournitures pour la maison, la musique, le sport, l'art. Donc, c'est encore des endroits où il y a encore pas mal de choses à faire, effectivement. La première question qui était le premier panel, hein, la première question qui était posée au premier panel, c'était comment tu scales, donc que tu fais croître ton business model rapidement. Et la clé de croissance au travers de l'acquisition client. Donc, c'était une table ronde qui rassemblait la fondatrice de Oddbox, qui récupère les légumes un peu, les fruits un peu bizarres, odd, hein, tu vois, bizarre, et qui en fait des box. Le fondateur de Justwear, qui serait l'équivalent de Bonne Gueule en Angleterre, et le managing director de Ola. Je sais plus que c'était Ola d'ailleurs. L'idée, c'est qui est vraiment ressorti, c'est d'être que la croissance se fait quand t'es community driven, tournée vers ta communauté. J'ai beaucoup jargonné en anglais parce que j'ai à peine traduit mes notes, tu vois. Donc, ouais, excusez-moi, ouais. Les auditeurs.
Pas de souci. Moi, je comprends.
Voilà. ouais, exactement. Donc, l'idée, c'est que
community driven.
Ouais, l'idée c'est de regarder l'ensemble du cycle client et de se dire que l'idée c'est de pas être en fait finalement on pense que l'idée c'est de faire de l'acquisition le plus vite possible, d'avoir de nouveaux clients et toujours de plus en plus de nouveaux clients. Alors qu'en fait tout ce qu'il disait c'est que pour avoir faire aujourd'hui la croissance d'une entreprise et la croissance rapide d'une entreprise repose plutôt sur la rétention, c'est-à-dire construire une vraie histoire avec tes clients au travers d'un produit vraiment différenciant et d'avoir voilà, la rétention c'est clé. Alors ils ont évidemment détaillé ce point en parlant des canaux propriétaires. Donc l'idée c'est que aujourd'hui si tu veux faire de l'acquisition et de la rétention, comment tu fais? Bah tu vas sur les médias sociaux d'une manière générale. Et eux ce qu'ils disent c'est ça peut être dangereux d'être dépendant, ça coûte de plus en plus cher. Donc, l'idée, c'est de développer son propre, que chaque marque développe son propre canal, celui qui lui convient le mieux. Donc, ça peut être un blog, un forum, une application, un magazine. Mais l'idée, c'est de le posséder et de le contrôler. Et on voit que tous les, voilà, tous les directeurs de marketing étaient d'accord là-dessus.
Mmh. Et puis les plus grosses réussites de ces derniers temps, elle s'est basée là-dessus quand même.
Ouais, toi, tu avais interviewé Away, tu vois qu'ils ont un magazine qui est très intéressant. Mmh. Tu vois que là aussi, une des clés de succès de Glossier, c'est d'avoir ce blog, ce forum Into the Gloss, comme ouais. pour Bonne Gueule d'ailleurs, mmh. etc. Mais là-dessus, donc l'idée, c'est que il faut être éducatif, faire de l'éducation. Et avoir un message très fort. Et ça, c'est porté aussi, donc ça, c'est le deuxième axe, avoir un canal propriétaire et faire du marketing de contenu. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que, en fait, 76% des spécialistes du marketing direct to consumer hein, utilisent le marketing de contenu, des contenus pour accroître leur notoriété. Ça fait baisser leur coût d'acquisition.
Mais du contenu, c'est quoi ? C'est vraiment faire comme Bonne Gueule, c'est faire des articles, c'est faire du podcast,
Exactement.
C'est faire de la vidéo
Exactement.
Sur YouTube,
c'est faire
etc.
du média en fait. Ouais, c'est faire des contenus pertinents.
Ouais, entertainer et faire des contenus pertinents qui apprennent pédagogique quoi.
Mm. Bah t'as raison. En plus, un des mots qui revenait le plus souvent, c'était entertainment dialogue. Tu vois. Donc l'idée, c'est de faire de l'entertainment, oui, mais de ne pas le faire à sens unique. Tu vois, de le faire en remontant comme une forme de conversation effectivement. Ce qu'il disait, c'est que en fait c'est plus simple de faire pointer et ça coûte moins cher et c'est plus efficace de faire pointer des contenus vers Facebook, vers des contenus que vers des produits, parce que sur des produits il y a trop de concurrence, alors que si les contenus sont pertinents, en plus s'ils sont en affinité avec une cause à laquelle l'utilisateur croit, du coup, on s'aligne sur cette cause plutôt que sur le produit. Magda Kolesonski, donc la marketing directrice de Hotbox, elle disait « Il ne fait aucun doute que si vous lancez une nouvelle marque en ligne aujourd'hui, le média social payant fera toujours partie du marketing mix et il peut amplifier ce qui fonctionne dans vos canaux naturels. Mais se concentrer sur les canaux organiques, ça vous permettra de construire quelque chose de vraiment spécial. » Donc, en fait, on voit qu'à la base, il faut vraiment s'efforcer de lancer une entreprise avec, dans l'idée, s'appuyer le moins possible sur le marketing rémunéré. Tu vois, pas se dire, bon, je vais lancer, je vais cracher tout de suite. Parce qu'en réalité,
Ça coûte trop cher.
Ça coûte super cher et émerger, alors qu'on ne te connaît pas, c'est compliqué, tu vois, il vaut mieux, alors, et si tu le fais, il vaut mieux émerger sur des valeurs et sur un vrai contenu et donner du sens. Et elle disait aussi, ce qui a été passionnant pour nous, c'est que 100% de notre croissance a été organique, donc pas payante, ce qui témoigne de l'adéquation produit-marché. Pour nous, le véritable objectif était d'offrir la meilleure qualité de service possible à nos membres et cela a eu des résultats positifs car toute notre croissance provenait des recommandations. C'est devenu cette victoire involontaire qui est d'établir une relation et d'obtenir de plus en plus de clients. Et tu vois, c'est vraiment... ça aussi, ça a été extrêmement souligné. Et j'insiste parce que dans les marques, pour les marques que j'accompagne, la question du service client est trop peu souvent posée et elle est posée souvent trop tard. On parle du produit, mais quel service on veut offrir associé à ce produit ? Et en réalité, c'est vraiment un mix. Hein, on l'a toujours dit, produit, expérience, service, il faut les poser depuis le début. Et si on les pose depuis le début, un client heureux, c'est un client qui revient et c'est un client qui parle de la marque. Et c'est aussi, après, il y a eu des petites discussions autour de comment construire le marketing dans le produit. J'y reviens pas, on en parle assez souvent. Et puis de dire que les direct to consumer s'adressent vraiment à un groupe spécifique de clients, à des marchés restreints. Ça aussi, c'est une notion, souvent j'ai du mal dans les marques que j'accompagne de leur faire comprendre que qui trop étreint, l'embrasse en fait. Le marketing digital, c'est fait pour parler à peu de gens, on parle mieux à peu de gens. C'est tellement précis et fin qu'en fait, il vaut mieux parler à des cibles très précises et très fines qui vont faire bouche à oreille qu'essayer de parler à tout le monde d'un coup. Donc ça, je pense que tout le monde était d'accord sur ce sujet.
Mmh. Ouais, ça, tu le répètes systématiquement, tout le temps et à tout le monde. On va finir par entendre, t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut vraiment construire une marque avec très peu de budget marketing? Parce que c'est un peu ce que tu es en train de nous dire. Finalement, avec Parce que si on n'est pas, enfin, tu dis pas qu'on n'est pas obligé de faire du paid media, mais grosso modo, j'ai l'impression qu'en montant un blog, en montant un podcast, en montant une chaîne YouTube avec finalement très peu de moyens, aujourd'hui, ça coûte, enfin, la barrière d'entrée, elle est quand même relativement faible, on peut construire une audience et construire une marque, quoi.
Alors, on peut débuter en tout cas très bien, et j'insiste sur l'emailing. Hein. J'insiste sur vraiment le travail fait autour de l'email, on n'en parle pas assez souvent. Des bonnes séquences d'emailing, c'est 50% de l'acquisition et de la rétention.
Mais ça, quand tu parles d'emailing, on est d'accord que ces emails, il faut les collecter à un moment donné. Et soit tu achètes des listes, soit à un moment, l'email, on va pas les inventer, quoi.
Alors, on les invente pas, mais très souvent aussi, les jeunes marques ne pensent pas dans leur premier cercle à collecter les emails très tôt. Et ça, c'est vraiment une erreur. Et puis, je pense que justement, plus t'as une cible précise et plus tu sais où la trouver, et plus elle aura envie de ton produit, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est s'adresser d'abord aux gens qui ont vraiment envie de ton produit au lieu d'essayer de toucher tout le monde. Et en fait, ça, c'est ceux-là qu'il faut embarquer, et c'est ceux-là qu'il faut construire avec la base client le plus tôt possible. Et c'est cela qu'il faut fidéliser aussi via l'emailing, avec des emailings intéressants, évidemment, comme de plus en plus de marques, en tout cas de DNVB, le font, et le font vraiment très bien. Mais c'est un sujet à part entière, je pense que ça vaudra le coup qu'on y passe.
Juste là-dessus, parce que c'est un sujet hyper intéressant, et je suis forcément dessus en ce moment. Les livres que tu conseilles sur l'emailing, le copywriting, etc., tu en as quelques-uns en tête ?
Non, il n'y a pas vraiment de livre sur le sujet. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous abonner à des marques de s'abonner à des newsletters de marques qui surperforment. Je peux citer Asphalt, on en parlait juste avant de commencer. C'est toujours un régal, même si on n'est pas client chez eux, d'ouvrir leurs emailings. Ils nous ont toujours quelque chose à nous raconter. Bonne gueule. D'ailleurs, il y a deux anciens de Bonne Gueule, Lucas et Robin, qui sont partis de chez Bonne Gueule, qui ont créé leur agence qui s'appelle Conversation et qui ne fait que de l'emailing et de la conversation, justement. Donc, ça, c'est assez exemplaire. Patine fait des super emailings, Cézanne, et d'observer leurs séquences, en fait, hein, puisqu'on ne travaille pas un emailing one shot, c'est pas des emailings promotionnels, il s'agit d'aller raconter une histoire sur une durée, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, Conversation propose des formations, des formations et du coaching sur l'emailing. Bah, ça sera, je pense qu'il faudra les faire venir qu'on parle avec eux.
Ah bah ouais, avec plaisir. Juste. Pourquoi pas.
Ouais, c'est vraiment carrément. Très très important. Alors, si tu disais effectivement, est-ce qu'on peut vraiment construire une marque avec peu de budget de marketing ? Bon, moi, ce que j'ai constaté après la journée, je me suis allée me balader à Covent Garden. Donc, c'est comme le Soho à New York. Tu vois, t'allais direct to consumer, les NVB, les unes à côté des autres, avec le même message, même discours sur le prix juste, la transparence, le sourcing. Donc, je te dis pas t-shirt après t-shirt, bougie, etc. Voilà, c'est le même discours. Donc, au début, si tu n'auras pas de problème à attirer des clients si tu es intéressant et si les gens veulent essayer des nouvelles choses. Le problème, il vient après le premier achat et puis quand toutes les marques adoptent la même approche. Et c'est bien pour ça qu'il faut que ton message soit vraiment extrêmement ciblé, pertinent, différenciant. Tu peux plus aujourd'hui, encore il y a 2 ou 3 ans, tu pouvais construire une digital native ou une nouvelle marque en disant « je vais être transparent, le juste prix, etc. » Mais aujourd'hui, c'est devenu le fondamental en fait. Tu peux même plus faire sans. Alors, qu'est-ce que tu vas rajouter à ça ? Quelle histoire tu vas raconter qui va faire que un certain nombre de personnes, pas énormes, une niche, vont avoir envie d'abandonner la solution qu'ils avaient auparavant chez un commerçant traditionnel ou ne trouver pas de solution à leur problématique et vont venir chez toi. Comment tu vas leur donner envie ? Voilà, il faut vraiment se poser la question.
Donc, il faut raconter une histoire, dire d'où vient le produit et quoi d'autre alors ?
Écoute, et puis essayer de fidéliser. Et je pense que là, c'est vraiment fidéliser les clients anciens plutôt que de partir à l'assaut comme le font les marques qui sont très très valorisées en très peu de temps et qui brûlent du cash. Ça a été dit aussi, qui brûlent énormément de cash comme Casper par exemple pour aller faire de la pub, etc. Et aller acquérir toujours de nouveaux clients. Bah, fidéliser, te concentrer à améliorer ton service et ton produit pour tes clients. Je pense qu'on va construire des marques qui dureront plus longtemps en ayant cette démarche de vraiment construire une base très très solide et fidèle. Et donc oui, il faut raconter une histoire et dire d'où vient le produit, préciser la valeur et l'offre et puis avoir un message, encore une fois, différenciant et unique. Après, bon, sur cette histoire de parler d'abord, ça aussi, ça a été dit, Ben Lay, qui est donc le managing director de Ola. Ah oui, voilà, ça me revient. Ola, c'est une direct to consumer qui, en Asie, c'est l'équivalent d'Uber en Asie, en fait. Il a lancé ça, ce service de taxi, qui disrupte les taxis en Asie. Et lui, il disait, il faut parler à un caucus d'abord. C'est-à-dire, les personnes qui voudront le plus acheter et construire l'histoire pour eux. Et c'est comme ça qu'on aura un product market fit. Et lui, alors j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, il travaille par playbook. Donc, son premier playbook, c'est d'aller chercher les étudiants. Tu vois, il se concentre vraiment sur une petite cible et il construit une offre pour les étudiants. Donc, l'offre moins chère, avec laquelle tu peux partager une voiture, tu peux évidemment tous les services associés au fait que tu peux prendre une voiture à plusieurs et déposer, tu vas partager la note finale. Mmh. Ensuite, son deuxième playbook, les familles et les touristes. Donc les familles, c'est-à-dire que dans les voitures, il y aura forcément des sièges pour enfants, il y aura forcément, tu vois, c'est vraiment, les touristes, on va pas te faire payer plus pour tes bagages, tu auras des offres, et puis surtout, tu sauras exactement où parler aux gens. Si tu veux faire justement, tu sauras où aller les chercher et où leur parler.
Tu
pars pas dans tous les sens. Et son troisième playbook, c'est les business d'aéroports. Tous les businessmen et donc les aéroports. Tu vois ? Et du coup, en fait, c'est une manière d'embarquer les clients dans des cercles concentriques. Mais ils partagent tous le même centre d'intérêt. Tu vois ce que il dit, l'affinité, c'est comme le centre de gravité. Mais il s'affaiblit au fur et à mesure qu'on s'éloigne du client de cœur de marque. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un cœur de marque super fort. Parce que quand tu vas t'en éloigner, en fait, c'est des gens qui auront moins d'intérêt à ça. Et pour ça, il faut simplifier l'argument. Donc, on regroupe les clients par bande d'intérêt, tu vois. Et il visualise des cercles concentriques en commençant par le centre de la marque et en s'éloignant dans différentes directions. Et à chaque fois qu'il construit un cercle, il fait le playbook adapté. Malin, non ?
C'est étonnant. Enfin, c'est malin, quoi.
Ouais, j'ai adoré. J'ai retenu. Je pense que je vais, tu vois, dans ma pratique au quotidien, quand ça pourra s'adapter, ça s'adapte pas toujours, mais quand ça pourra s'adapter, je vais y réfléchir de cette manière. Le deuxième panel, c'était comment naviguer dans le champ miné de la levée de fonds. Oui. Donc ça réunissait deux personnalités hyper intéressantes, Shane Hunt qui a créé Taylor and Hart, Taylor and Hart. Pareil, j'ai un petit trou, je crois que c'est une DNVB de mode, et Akin Onal qui a créé Mori. Mori, c'est une marque pour enfants, tout l'univers de l'enfant. Oui. J'ai retenu une idée essentielle de cette table ronde. C'est d'abord, il faut s'appuyer sur sa famille et ses amis, qui sont vraiment ton premier step. C'est-à-dire que si eux ne croient pas en toi, ton histoire va être compliquée. Mais faire attention parce que c'est pas des pros du business angel, même si c'est tes premiers anges. Et ensuite, construire son premier réseau de business angel. Mais l'idée que je retiens, le plus fondamental, c'est d'avoir un board de conseillers, advisory board, le plus fort possible. Pourquoi ? Parce qu'elles vont t'aider à parler de ta marque, à trouver des clients, des gens passionnés. La grande phrase de Akin, c'était « The best investment a startup can make early on may be the selection of its advisory board ». Donc, le meilleur investissement qu'une marque puisse faire le plus tôt possible, c'est de sélectionner les meilleurs membres pour son board. Tu vois. Et pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vont te mettre en contact avec des mentors, des investisseurs, des médias. Et il dit, ça va faire toute la différence dans ta trajectoire de croissance.
T'imagines que j'ai plein de questions pour toi là, sur ce sujet. Il faut avoir combien d'advisors, comment tu leur parles, à quelle fréquence, est-ce que tu les mets ensemble dans un groupe WhatsApp,
ouais.
Est-ce que ouais. C'est quoi ta recommandation là-dessus, c'est quoi sa recommandation là-dessus?
Alors, donc le sujet a été débattu entre les deux intervenants. Et en fait, je pense que le choix, le meilleur choix, c'est de chercher des compétences qui vont combler tes vides dans l'entreprise au début. Tu vois. Donc, il disait par exemple, tu vas chercher un avocat. Donc, ça peut être un de tes amis s'il a la bonne compétence, tu vois, pour obtenir des conseils juridiques supplémentaires. Ça coûte cher, hein, c'est un des postes qui coûte les plus chers au démarrage. Un spécialiste des relations publiques pour obtenir des conseils sur l'image, du marketing. Et aussi, ils en ont beaucoup parlé, un ancien entrepreneur qui a eu des problématiques similaires, qui est passé par là où tu passes et qui va pouvoir t'aider, justement, qui a plusieurs longueurs d'avance sur toi pour approfondir tes connaissances. Et l'idée, c'est de les traiter vraiment comme des partenaires. Il t'apporte une vision fraîche parce qu'ils ont été confrontés souvent aux mêmes difficultés. Et c'est vraiment très différent des investisseurs.
Ils sont pas du tout incentivés.
Ils peuvent l'être. Hein, tu peux l'être ou pas l'être, ça dépend. Normalement, en tout cas en Angleterre, traditionnellement, c'est 0,25% sur la base d'action. Tu vois. Donc c'est pas non plus excessif. Après, à chacun de trouver ses accords, c'est relativement bas. Évidemment, et souvent le premier advisory board sort au moment de la première levée de fonds. Il peut rester, pendant les fonds d'amorçage, mais souvent il sort quand même et il est remplacé parce que comme c'est des compétences, tu veux, comme les compétences, on peut avoir besoin de compétences qui évoluent, mais tu peux rester. C'est chacun qui fixe ses propres règles. Et après, tu peux les mobiliser soit régulièrement, soit au besoin. En tant qu'advisory board, je vis la situation des deux manières. Et on peut être fixer des points réguliers tous ensemble, mais on peut aussi être consultant, être amené à passer une heure ou deux avec l'équipe tout seul. On n'est pas obligé de se réunir tous ensemble. Mais en fait, c'est plus la relation est structurée, meilleur c'est quand même. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire du name dropping. Tu vois, te dire que tu fais ton advisory board en fonction de noms connus. Alors, si c'est que pour impressionner, ça va pas. Si c'est vraiment, les gens sont vraiment utiles et que c'est vraiment parce que tu as un super network, un super réseau et que ça démontre ta capacité à attirer des personnes influentes et à partager une vision, oui, tu vois. Mais on va vérifier. Enfin, je pense que tu vois, quand tu vas faire tes levées de fonds, les VC, ils vont vérifier si ton board il est vraiment embarqué ou si c'est juste tu les as mis sur le papier pour faire joli.
Comment tu décides quand tu vas accepter d'être membre d'un board en tant que conseiller ?
Alors écoute, déjà, je pense que la première chose, c'est d'être en affinité avec le projet. Moi, il faut que ça me parle. Et puis, de mon point de vue, il faut que le projet soit relativement ambitieux, voire très ambitieux, parce que c'est ce que je préfère. Je pense que quand on commence petit, si on a une vision toute petite, c'est difficile d'aller décrocher les étoiles. Hein. Il faut que le ciel est un peu loin, quoi. Après, il faut que ce soit pertinent et cohérent aussi, même si là-dessus, on peut toujours rééquilibrer des éléments de cohérence. Mais il faut que la vision soit pertinente, qu'il existe vraiment un marché pour moi, tu vois, faut vraiment faire la preuve du marché. Et puis surtout, il faut avoir une affinité avec les fondateurs et avec leur vision. Après, moi, si je peux apporter une expertise à moyen terme, je le fais. Mais parfois, je choisis d'aider ponctuellement, tu vois. Je dis pas non complètement, mais je choisis d'aider ponctuellement. Et puis, ce que je pense, c'est qu'il faut pas, vouloir en tant que advisory board, il faut pas vouloir être compétent sur tous les sujets de la startup. Tu donnes juste sur ton domaine d'expertise. Et ce qui est sympa, c'est que tu apprends aussi des autres membres du board. Quoi. Tu vois, c'est vraiment. Tu t'embarques dans une histoire et je pense que. Moi, quand je m'embarque, c'est comme si je faisais partie de l'aventure. Tu vois,
Mais d'ailleurs, j'ai eu deux questions là-dessus. C'est comment toi, tu arrives à trouver le temps? Parce que je ne sais pas, alors, t'es advisor dans combien de startups? Mais. Les semaines, on n'a que 24 heures dans la journée, quoi.
Mais tu sais, parfois, c'est juste, par exemple, alors normalement, on ne cite pas, on ne dit pas trop et tout, parce qu'on a des clauses. Mais pour un hacker qui fait de la 3D, par exemple, qui réinvente la 3D pour rendre le web cool again, par exemple, on se voit tous les 3 mois. Et ensuite, comme moi j'ai leur stratégie en tête, je sais avec qui je peux les mettre en relation et au fur et à mesure, je les mets en relation. Par exemple, tu vois, si ça coince, ils m'envoient un mail ou un petit WhatsApp et on échange très rapidement. C'est pas forcément très très chronophage, à part ces réunions tous les 3 mois où c'est vraiment super bordé, parce que il y a des membres de leur board qui sont aux États-Unis aussi. Donc tu vois, les calls, on sait, ça dure 1 heure, c'est quand ils se réveillent en Californie et avant qu'ils commencent la journée de bureau, hein. Donc non, c'est pas si chronophage. Il faut vraiment que ce soit bien organisé. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît quand c'est bien organisé aussi.
Oui. Et dernière chose, c'est que avoir des advisors, c'est bien, des gens qui donnent des conseils, etc. Mais à la fin, c'est quand même l'entrepreneur qui prend la décision et qui tranche. Puisque, enfin, moi, un truc qui me fait peur dans ce type de configuration, c'est que, enfin, moi, je le vois bien avec Réunis, tu demandes l'avis à 15 personnes différentes, t'auras 15 avis différents. Parce que chacun a ses biais et chacun voit les choses au travers de ses filtres à soi. Et après, demander trop de conseils à un moment, c'est difficile, je trouve.
Moi, je trouve que ça demande de la psychologie et de l'écoute, c'est toujours pareil. Comme on est à la limite du coaching, tu vois, il faut savoir, faire la part de qu'est-ce que toi tu ferais et qu'est-ce que les fondateurs de la startup ont vraiment envie de faire. Parce que t'as pas la science infuse, tu connais pas tous les business, et s'ils sont en train d'inventer un truc nouveau et que toi tu les amènes dans un truc ancien, c'est pas bon. Donc à partir de là, l'idée c'est de les faire accoucher des bonnes hypothèses et de les guider vers ce qui leur convient vraiment, vers leur pure intuition. Sauf si tu sais vraiment, tu te dis, et là on est vraiment, bon, en général on est 3 ou 4 dans un board et on dit bon. Là, ça va pas être possible, les gars, réveillez-vous. Y a un problème, mais sinon, en fait, l'idée, c'est de leur dire, voilà, bah, vous avez montré telles hypothèses. Il semble que, objectivement, celle-ci serait peut-être la meilleure par rapport au marché ou par rapport à là où vous en êtes. Mais on a l'impression, ça m'arrivait vraiment, tu vois, réellement, on a l'impression que celle-ci vous convient mieux, que vous êtes plus aligné. Donc, allez-y, mais ne faites que ça. Arrêtez de vous disperser entre les différentes solutions envisagées, tu vois. Ah, c'est le rôle d'un board de dire, ok, encore une fois, qui trop pétrin, mal embrasse une stratégie et une seule, et tu resserres. Et on voit, et c'est, je pense, au board de dire, attention, les fast tests vont durer tant de temps, donc on se revoit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et on regarde où vous en êtes, on vous fixe des KPI, et on voit où vous en êtes, tu vois. Ça, par exemple, ça peut être le rôle d'un board. Ouais. Ça peut être autre chose.
Ouais. Et est-ce qu'il y avait d'autres bons conseils dans ce panel-là ?
Oui, ce qu'il disait, c'est que en fait, il faut faire attention à pas lever. Ça, c'est un truc que je dis aussi assez souvent. La phrase que je retiens, c'est ne pas lever pour survivre, mais quand on est en pleine dynamique. Voilà.
Oui, bien sûr.
Voilà. C'est des évidences, mais c'est vrai que je pense que pas mal de DNVB, direct tous consommateurs qui sont dans la salle, ont pris des KO avec ça. Ils n'y ont pas survécu, justement, parce que la pression est trop forte. Après, plus spécifique, et je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, en raison du Brexit, le marché des direct to consumer anglo-saxon s'est rétréci. Et du coup, leur deuxième marché naturel, ils appellent ça leur aire biologique naturelle, c'est les USA. Donc, dès qu'ils ont une preuve de market fit ou qu'ils ont commencé de l'attraction, ils vont aux États-Unis. Du coup, les États-Unis, c'est des marchés hyper saturés. Donc, nous, Français, on a la chance de pouvoir se développer ailleurs qu'aux États-Unis, en particulier en Asie. Je l'ai vu, hein, là, au Japon. On nous attend. Donc, pas toujours penser comme il faut penser. Ah oui, je peux te dire que oui. Oui.
Mais qu'est-ce qui t'attend ? Qu'est-ce qui nous... Enfin,
le marché japonais est vieillissant, par exemple, et du coup, ils ont une appétence pour des marques neuves, fraîches, qui racontent des histoires.
Comment t'attaques le marché japonais ?
Ah, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet en train, mais...
mais tu le commences... Enfin, t'as intérêt à l'attaquer dès le départ ?
Alors... Encore une fois, c'est peut-être une question, on va parler en playbook, du coup, tu vois, ou d'air. Je pense que, en tout cas, dans ta stratégie, t'as intérêt tout de suite à te dire quel est mon premier marché et quels seront mes marchés, quel est même mon marché cible, parce que ça va quand même être déterminant. Raconter une histoire, une histoire en français et une histoire en japonais, c'est pas du tout les mêmes cultures. Donc, t'as intérêt dès le début à te dire comment je vais raconter mon histoire au Japon. Ok, je le fais pas maintenant au Japon, mais comment je vais la raconter, comment ça va être perçu et quelle va être la valeur différenciante, par exemple. Tu vois, donc je pense que oui, t'as intérêt à te poser les bonnes questions parce que le marché français aussi c'est pareil, il se sature assez vite suivant les industries, donc t'as intérêt à y penser bien sûr et pas penser qu'aux États-Unis où vraiment la concentration est devient très importante sur certains.
C'est vrai qu'un, tu vois, moi instinctivement, je penserais vraiment à l'Europe et puis aux États-Unis, quoi, en phase 2. Mais c'est vrai que l'Asie, on n'y pense pas forcément, mais.
Ouais, et c'est vrai que en termes de e-commerce, tu vois aujourd'hui un ralentissement donc très net en Angleterre. Et tu vois que des pays comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal sont en train de se développer, rattraper leur retard. Donc, tu vois, il y a aussi, peut-être plutôt que d'aller toujours se fournir au Portugal ou en Espagne, se dire qu'il y a peut-être aussi, on peut aller leur vendre.
C'est clair.
Voilà, bon, petite parenthèse.
Il y
avait six panels, donc je vais être un peu plus rapide sur les panels suivants. C'était pas qu'ils étaient moins intéressants, mais c'est que bon, ben on peut pas parler de tout. Mais j'ai adoré le panel numéro 3, la question c'était comment on fait pour créer la question à 1000 francs, comment on fait pour créer une direct to consumer qui ait du succès. Alors déjà la question du succès, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire le succès? Est-ce que ça veut dire justement une expansion rapide? Est-ce que ça veut dire construire, ça on en a souvent parlé ensemble tous les deux, construire une marque internationale et gigantesque? Ou est-ce que ça veut dire avoir une marque à sa mesure, qui est reconnue et exemplaire? Je pense que tous penchaient pour la deuxième solution, vraiment. Et pour une croissance très graduelle et pour bien construire son modèle sur une niche. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est Jessica Masson qui a créé Piglet in Bed, qui est l'équivalent de Bonsoir en France, donc une DNVB qui fait du linge de maison, du linge de lit. Et puis Jimmy Williams qui a créé Urban Jungle, qui était plutôt de l'assurance et que lui veut vraiment utiliser la tech pour faire passer le monde de l'assurance au 21e siècle, c'est son grand claim. Et lui, il disait il faut regarder... où est la valeur dans l'industrie, là où elle n'est pas captée, et les opportunités, il dit, écoute bien cette phrase, elle est géniale, les opportunités sont là où les habitudes de marché sont prises. C'est-à-dire, dès qu'on s'est habitué, dès que ça fonctionne comme ça depuis toujours, dès qu'on dit, ouais, mais on a toujours fait comme ça, c'est là que tu peux péter le système et engouffrer une bonne idée. Et Jessica Mason, donc elle a surenchéri, elle a dit oui, le comportement des consommateurs a changé rapidement. Et elle, de son point de vue, elle avait l'impression que vraiment l'industrie s'adaptait pas assez rapidement. Et qu'en travaillant le message d'une manière différente, on arrivait à construire des marques qui avaient beaucoup de pouvoir. Ils ont insisté sur l'idée de créer de la valeur tout au long de la customer journey, donc. Tout au long de ne pas s'arrêter, par exemple, je vois souvent des marques qui se posent la question au moment de qui arrêtent de réfléchir au moment où le produit est vendu. En fait, à partir du moment où le client a fait l'acquisition, pour eux, ils ont fait le job. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et en termes de produits, et en termes de services, et en termes de communauté, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est là qu'on a des choses à faire aussi. Et puis, bon, alors Jessica Mason, elle mâchait pas ses mots. Et quand c'est venu la question de l'influence, puisque aujourd'hui construire une marque très successful, on se dit, eh ben tu peux la construire sur de l'influence, du marketing d'influence. Elle a été très claire. Elle a dit, l'influence c'est une pompe à fric. Voilà. Donc je laisse ce panel sur ces jolies phrases.
Non, mais c'est toujours la question qui vient souvent. Hein. Enfin, moi, je l'ai retourné dans tous les sens, ce truc-là. Hein. Est-ce que l'influence, ça fait... Est-ce que l'influence, il faut en faire, il faut pas en faire? Et tout le monde te dit tout et son contraire. Hein. Donc, c'est un vrai sujet.
Moi, je pense que tu es fan de ta marque, si t'as la chance d'avoir un réseau de gens influents, tant mieux. Mais c'est ton réseau, en fait. C'est ton premier cercle. Donc, voilà. Mais l'influence payante, c'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Ça fait des coups, hein. Ça fait des coups, et si tu veux faire une marque à court terme, vas-y, tu peux le faire. Maintenant, ce qu'on voit, la presse entière, j'ai même pas voulu, j'aurais pu faire un sujet entièrement là-dessus, sur l'influence. Tu vois bien qu'aujourd'hui, elle est en crise quand même, hein. En tout cas, les gros influenceurs, on a parlé de micro, et maintenant on parle de nano-influence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, les mécanismes humains sont basés sur l'influence. Les mécanismes de prise de décision sont basés sur l'influence. Tu demandes toujours, voilà, tu demandes de l'aide à ton meilleur ami, quoi. Et ça, c'est vrai depuis toujours et ça restera vrai. Donc, si ton système d'influence est basé sur tes meilleurs amis, vas-y. Si tu dois payer pour te donner un petit coup de pouce, si tu le fais dès le début, c'est que tu n'as pas de market fit. C'est mon avis. Hein. Bon, je sens que je vais avoir okay. des réflexions par, par message. Allez-y, ouais, envoyez-moi vos messages et réfléchissons ensemble. Et
non, mais ça n'engage que toi.
Ça marche. Et toi, non ?
Non, mais c'est... Pardon ?
Et toi, non. Ça ne t'engage pas du tout ce que je raconte.
Non, ça m'engage pas. Non, ça m'engage pas. Mais je suis. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis. Après, je peux.
Non, je t'ai pas trop dire. Tu verras. On en reparlera.
Ouais, je pense que il faut que je teste le truc. Mais encore une fois, quand tu parles avec moi, les gens de mon réseau, quand je parle avec Delphine Delval, qui représente des influenceuses, elle me dit clairement non. Enfin, les influenceuses, elles font vendre vraiment. Quand je parle avec Guillaume Delacroix de DLX, il dit ok, bah avec
oui,
les influenceuses,
bien sûr,
tu racontes. Tu racontes pas une histoire, mais tu fais vendre. Ça fait vendre. Tu racontes une histoire autrement. Mais une influenceuse, ça fait vendre encore aujourd'hui. Il y a plein de belles histoires. Il y a plein d'histoires, et notamment celle qui me vient en tête régulièrement, c'est Byfar, qui a réussi à exploser rapidement grâce à la remontée par les influenceurs. Mais je suis d'accord avec toi. Pour combien de temps ? Est-ce que Byfar, dans 2 ans, ça existera encore ? Je sais pas. Peut-être qu'ils auront grossi tellement rapidement et sur un
truc
qui est finalement
en fait.
Sur un effet de mode, le soufflet risque de retomber aussi vite qu'il est apparu, quoi. Donc je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec toi.
Chacun doit pouvoir tester ses solutions et voir ce qui est le plus adapté pour soi. Bon, là je suis dans un compte rendu, j'ai ma position et bien sûr elle va plutôt dans le sens de ce qu'on racontait, c'est direct au consumer, et là je te parle de panels ou qui l'ont testé aussi, et pour eux ça fonctionnait pas. Bon, maintenant on est d'accord, elle fait du linge de maison, elle fait pas de la mode, tu vois, aussi ni de la mode ni de la cosméto, donc chaque secteur.
Mais c'est toujours un sujet quand même qui suscite de l'intérêt. Je trouve que
c'est toujours
un très bon sujet. Ouais. Donc panel numéro 4.
Comme le sujet suivant qui était autour de la data, bien sûr, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec cette data, pourquoi. Donc là je vais aller un petit peu vite, j'étais très intéressée, il y avait Anita Di Bello qui était product manager chez Birchbox, Millie Maidens qui était product developer chez ED. Qui est une marque qu'on aime bien, hein, de mode féminine qui s'est développée en Angleterre puis aux États-Unis et maintenant je crois qu'elle va bientôt arriver en France d'ailleurs. Et Morgan Falls qui elle est plutôt une solution, elle travaille à la fois avec des retailers traditionnels et à la fois avec des DNVB chez Spock. Elle m'a fait vraiment marrer, elle avait vraiment son franc-parler. Birchbox, ils disent qu'ils utilisent bien sûr beaucoup de data. Que tout leur business et modèle est construit autour de la data, mais elle disait que au bout du bout, hein, c'était quand même pour mettre la meilleure box dans les mains du client. Et elle disait qu'ils utilisaient énormément les feedbacks clients. Ce que j'ai aimé dans son discours, c'est qu'elle a dit aussi attention, il y a des limites quand même au tout data, toute l'analyse business intelligence. Par exemple, elle disait que s'ils avaient simplement consulté leur data pour faire leur dernière box, ils n'auraient pas mis les produits Mimitika dedans. Mimitika, c'est une crème solaire française, d'ailleurs, c'est une DNVB française, qui a une composition super saine pour la peau et pour les océans. Et elle disait, c'est juste parce qu'on a eu un coup de cœur pour cette marque et qu'on voulait la faire connaître et que ça fait partie de notre engagement aussi. Tu vois ? Et du coup, elle a eu du succès, mais c'était pas dans les chiffres. Donc, mettre de l'humain dans la data. Et puis il y a ED donc qui a expliqué comment elle avait fait. Elle avait de l'écoute de ses clients, compris qu'il y avait une envie sur ce que des vêtements pour le road trip, en gros pour les vacances un peu, tu vois, mais en vacances en mode road trip. Et du coup ils ont fait une capsule et ils sont servis de 600 clientes utilisatrices et qui ont résolu tous les problèmes. Donc ils ont pris des démographies très différentes, des profils très différents, et du coup c'était un gros succès tout de suite cette collection. Et puis alors donc Morgan Fall, elle m'a fait rigoler parce que elle disait que c'est les acteurs traditionnels disent c'est pas qu'ils veulent pas utiliser les data, c'est qu'ils en ont peur. Et en fait ce dont ils ont le plus peur, c'est de voir qui est vraiment leur client et de voir que c'est pas le client dont ils rêvent et qu'il est jeune et shiny. Et ça m'a fait rire parce que je le vis au quotidien avec certaines marques, tu vois, qui veulent pas vraiment savoir quand je leur pose la question, mais qui est votre client, et qui veulent pas répondre, qui me disent toujours, ah ben ma cliente c'est une jeune avocate, elle a 30 ans et elle vit entre New York et Los Angeles, tu sais, je te fais souvent rigoler avec ça, et c'est pas du tout leur cliente en fait, voilà. Et ça me fait rire. Ben je pense qu'il est temps de regarder en face ses clients et de savoir leur parler. C'est bon pour tout le monde en fait.
Mais ça, c'est un biais que j'ai l'impression que tout le monde a, en fait. Que tu sois jeune ou vieux, tout le monde rêve d'un client de la trentenaire avocate entre Paris et New York, quoi. C'est fou, ça.
Oui, et puis comme si toutes les avocates étaient sur Instagram à longueur de journée, comme si elles étaient fashionistas. Enfin, c'est vraiment mal connaître les avocates, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut être un peu plus précis que ça aujourd'hui. Je pense en plus... Alors, c'est vrai qu'on se dit, ah bah oui, mais c'est la cible la plus digitale, donc c'est la plus facile à avoir. Mais en fait, Facebook regorge de gens de tous âges et de tous azimuts. LinkedIn aussi. Après, si effectivement, tu te concentres sur les grosses influenceuses, quel âge elles ont, etc., et encore, elles vieillissent aussi, tu vois ce que je veux dire. Et puis, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de manière de vivre, d'habitude, voilà, ils veulent mieux regarder les comportements et les habitudes de tes clientes et de tes clients, et ils peuvent avoir n'importe quel âge et avoir des comportements d'adolescents également. Voire l'inverse. On voit aussi des adolescents et des jeunes adultes qui sont complètement réfractaires à tout social media. Et puis, bah, c'est un sujet qui commence à arriver aussi, hein, qui va m'amener directement vers le dernier sujet. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, le social media, c'est pas la panacée universelle. Hein. Et donc le dernier sujet était donc les médias, comment les médias changent et ce qu'on appelle OOH donc on
out
change
of
en
home.
Fait. Ouais.
Ouais. Out of home et outdoor digital out of home.
Ouais, ça veut dire ouais. En fait tout ce qui est l'affichage urbain et alors il y a eu sur la télé, je vais pas y revenir parce qu'on en a parlé assez longtemps la dernière fois, donc, ouais. Dans l'épisode précédent, vous pouvez le retrouver. Même si, bon, encore une fois, bah, oui, les télévisions partout maintenant, partout dans le monde font des, enfin partout dans le monde, en tout cas en Angleterre, aux États-Unis et sans doute ailleurs, font des offres à destination des direct to consumer. Elles ont bien compris qu'il y avait quand même là-dessus un vrai marché. Et que du coup c'était aussi une manière d'élargir leur base client. D'ailleurs on a parlé de Harry's qui a fait une campagne en février 2019, une campagne média télé avec le footballeur Harry Kane. Donc ils ont fait un jeu de mots sur le nom Harry, qui était le capitaine de Tottenham et le capitaine de l'Angleterre de la Coupe du Monde. Et il est barbu. Donc ça, tout le monde en a parlé beaucoup. C'était une campagne très très réussie. Mais on a parlé surtout donc de ces en fait de ces nouvelles campagnes, de l'efficacité des campagnes d'affichage. Figure-toi que en fait l'affichage c'est le deuxième média le plus populaire après la télévision. Et en fait, il a une capacité à aussi, comme la télé, à diffuser des messages à grande échelle. D'ailleurs, on en parlait la dernière fois aussi de l'affichage sauvage. Je sais pas si tu te souviens. On se disait les direct consumers, elles sont dans le métro, elles sont dans l'affichage sauvage. On voit plus qu'elles. Et puis tu peux les avoir aussi. C'est pas que l'affichage en ville, c'est aussi dans les salles de cinéma, les aéroports, sur les voitures, les bus, les métros. Il y a énormément de possibilités de placement. Et surtout, en fait, les consommateurs accordent une grande confiance à l'affichage média plus qu'au digital. Donc c'est un bon moyen pour amplifier des campagnes en ligne existantes. Au Royaume-Uni, c'est le deuxième média le plus consommé de tous les médias, hein, y compris Internet. Voilà. Et donc du coup, t'as une combinaison en fait d'échelle. Tu vois, tu peux parler très largement à un grand public et de fiabilité. Alors, quand on parle de mauvaise conduite des médias sociaux, tu vois, de manque de transparence, de mauvaise utilisation des médias sociaux, bah, l'affichage, tu vois, c'est en fait un outil auquel on peut penser. Et d'ailleurs, les groupes médias eux-mêmes et les grandes marques digitales, Facebook, Google, Netflix, elles investissent massivement dans l'affichage. Bah oui, il y a eu une campagne récemment Amazon à Times Square avec des énormes panneaux digitaux. Donc il y avait des immenses panneaux digitaux sur Times Square et les passants, donc la série Omen, c'est une série un peu apocalyptique, tu vois. Et bien les passants, ils sont plongés grâce à la réalité augmentée dans des séquences du film. Et ils peuvent se prendre en photo, prendre la pose et tout, et ils partagent sur le compte Instagram d'Amazon Prime. Et grâce à la réalité augmentée, en fait, il y a des éléments fantastiques qui s'intègrent au paysage, des taches, des énormes tentacules, des ovnis et tout ça. Et il peut, il y a même des attaques virtuelles de passants. Donc c'était assez drôle. Évidemment, tu penses que c'est hyper viral. Ça, ça fonctionne bien. Après, il y a aussi une nouvelle réflexion autour de ce qu'on appelle micro-mobile moments, les petits moments de déplacement urbain. Donc, et ça, ça intéresse beaucoup ce qu'on appelle les commuters, les gens qui vont de banlieue à, tu vois, qui vont travailler à Paris, dans la grande ville. Pardon, c'était Londres en l'occurrence. Et qui retournent chez eux en province et qui passent beaucoup de temps dans les transports. Dans le système traditionnel, on disait l'affichage renvoie à une boutique physique, à un magasin. Mais avec les téléphones mobiles, en fait, maintenant, on sait que dès que tu as une influence directement, tu vas dans le métro et un truc qui t'intéresse, tu peux acheter directement depuis ton mobile. Et, alors, ils ont donné un chiffre. Un rapport de Kinetic et Exterior Media qui a dit que justement tu vois ces gens qui vont de banlieue à Londres représentent 22,8 milliards de livres pour l'économie britannique chaque année grâce aux achats effectués depuis un smartphone en déplacement dans toutes les catégories: vêtements, produits alimentaires, vacances, services premium et abonnements. Donc attends, je vais te mettre ça en perspective, tu vois, c'est 14% de toutes les dépenses en ligne au Royaume-Uni chaque année.
Ah ouais, c'est un vrai business, quoi. C'est fou. Ok.
Ouais, les gens qui prennent les transports, les gens interrogés, 70% ont dit qu'ils avaient effectué un achat direct grâce à une publicité extérieure. C'est quand même énorme. Et quand j'y étais, j'étais trop contente parce qu'il y avait justement, il y avait un énorme dispositif d'une nouvelle digital native vertical brand qui n'est pas du tout de la mode, mais qui me fait mourir de rire et dont j'ai parlé sur le compte Instagram des NVB World, qui s'appelle Itch. Alors là, c'est des foudres de guerre. C'est James Cox qui avait cofondé Simba, donc Bed in Box. C'est la plus forte croissance quand même en Europe, hein, pour les Bed in Box. John et Adam Gould, des frères qui avaient créé Monster Pet Supplies, et Charlotte Harper qui avait créé Zooplà. Bon, des vétérans qui ont lancé un service personnalisé gratuit à domicile pour la livraison, premier produit, de l'antipuce. Bon, après ils vont aller sur tout le bien-être animal, hein, ça c'est ok. Le premier c'était de l'antipuce, mais c'était du bien-être animal. Et ils ont, figure-toi, lancé, alors c'est tout le contraire de ce qu'on vient de dire depuis le début, leur campagne marketing, ils viennent de se lancer, hein. Une campagne intégrée de 150 000 livres sterling, parce qu'ils veulent vraiment, ouais, du lourd, parce qu'ils veulent vraiment se placer comme les number one du pet care et de prendre en charge vraiment tout le bien-être animal. C'est la première fois que j'entends parler du bien-être animal
dans le monde de la DNVB.
Mm. Ouais, exactement. Donc ils ont fait une campagne télé qui était prime au Cannes Lion en juin d'ailleurs, et qui était à partir du 1er juillet sur Sky, une campagne RP et puis marketing évidemment du numérique, du social media, et puis bien sûr de l'affichage dans le métro. Et alors donc j'avais posté leur spot, et tu vois en fait un petit couple qui dîne tranquillement à la maison après une journée bien remplie, et puis à ce moment-là il y a un petit chat qui arrive. Alors en plus tu connais l'affinité du chat et des médias sociaux, et il fait un petit DJ set là comme ça, un mini stage, et en fait il scratch mal, tu vois, il est complètement à côté de la plaque en fait parce qu'il a des puces. Bon, donc, tu vois, bon, humour très 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 anglais. Donc remède miracle, itch, très drôle. Et puis des panneaux d'affichage dans tout le métro pendant 4 semaines, très très percutant, avec des mots d'esprit, enfin une image de marque très très distincte, très très sympa. La chief marketing officer, donc elle a dit, itch a été lancé dans le but d'insuffler au marché des soins pour animaux domestiques une dose massive de personnalité, en offrant aux propriétaires d'animaux domestiques un accès direct aux meilleurs produits personnalisés contre les puces pour leurs animaux domestiques. C'est une marque qui n'a pas peur d'être audacieuse et courageuse pour répondre aux besoins de bien-être de nos animaux domestiques. Nous voulions une publicité unique, ludique et inoubliable. Et maintenant, nous avons rempli notre mission pour nous faire plaisir et nous faire peur.
Excellent. Voilà.
Voilà. Donc je finirai là-dessus. Voilà, c'était une belle expérience. J'espère qu'on pourra dépliquer ça en France et en Europe très rapidement.
Ouais. Ouais, c'est prévu déjà ou pas encore? Non, pour l'instant, ça reste.
Tu travailles.
Ah, tu bosses dessus, d'accord. Ouais, c'est toi l'actrice. Ah ouais.
Exactement.
Excellent. Exactement. Eh ben, écoute, j'espère qu'on pourra y assister. Merci en tout cas encore pour cet épisode fleuve. C'est trop cool. C'était hyper intéressant. Tu nous as encore ouvert pas mal de perspectives. Merci infiniment et je te souhaite un bel été, hein, parce que là on est
aussi,
fin
parce
juillet.
Qu'on se retrouve en septembre.
Ouais, on se retrouve en septembre, ça sera vite là. Déconnecte bien
et
voilà.
Aussi. Et travaille bien réunis, hein, dont on attend des merveilles. La barre est très haut.
La barre est très très haut. On a mis la barre très très haut. Ouais, c'est clair. Bon, merci. Salut, ciao.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.